Je m'associe à l'accueil qu'Alex vous a réservé. Je suis responsable des groupes bibliques universitaires en Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des GBU. C'est une association culturelle qui a pour but, en fait, de faire découvrir la Bible et par elle l'Évangile aux étudiants de tous horizons. Donc c'est mon travail. Sinon, je suis marié et père d'une petite fille que vous avez dû entendre pleurer pendant le début du culte. Donc je m'excuse auprès d'elle. Et comme Alex nous l'a précisé, nous allons en fait ce matin étudier les deux premiers chapitres d'un livre de l'Ancien Testament, du livre de Job. Je vous invite à la prière avant toute chose. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes peut-être venus à l'église ce matin avec nos joies, mais aussi avec nos peines, peut-être avec nos problèmes, peut-être avec nos soucis. Mais puisque nous avons en la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus, un grand prêtre, tenté en tout point, sans commettre de péché, et capable de compatir à nos faiblesses, nous voulons nous approcher de ton trône, le trône de la grâce, avec une pleine assurance, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru dans nos faiblesses. Alors Seigneur, nous t'implorons, sers-toi de ta parole, la Bible, ce matin, pour nous donner ce dont nous avons besoin, peut-être pour nous secourir, peut-être pour répondre à nos questions, pour nous encourager en tout cas, et pour faire ton œuvre dans nos cœurs, par la puissance de ton esprit. Et tout cela, nous le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Avant de commencer, je précise que vous avez derrière le bulletin un plan du message qui va être délivré et j'espère que ce plan pourra vous aider à suivre le message de ce matin. Fred est un très bon ami chrétien. Un jour, Fred perd son frère, victime d'une attaque cérébrale à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, Fred va bien. Je lui ai envoyé un texto cette semaine. Mais il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son frère. Jamais. Ça l'a marqué à vie. David et Wendy sont de bons amis de la famille de Meg en Australie. Meg est australienne. David est en dépression depuis 10 ans. Wendy, son épouse, a de la polyarthrite rhumatoïde qui la fait atrocement souffrir et qui l'empêche de vivre normalement. Ils ont une fille qui a fait une tentative de suicide. Pour David et Wendy, la vie n'a jamais, jamais été facile. Et ne le sera jamais sans doute. Et si tout ça vous arrivait à vous, comment réagiriez-vous? Quelle serait votre réaction? Si vous avez déjà été confronté à la souffrance dans votre vie, votre propre souffrance, ou la souffrance d'autrui, comment avez-vous réagi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Comment ça s'est passé entre vous et Dieu? Est-ce que vous avez douté de sa bonté, de son amour, de son existence? Est-ce que vous êtes rapproché de Dieu? Est-ce que vous en êtes éloigné? Je sais que certains d'entre vous, dans l'Église, comme beaucoup de monde, passez par des moments difficiles. Je veux faire preuve de sensibilité et je vous demande de m'excuser si je manque de faire preuve de sensibilité en parlant de souffrance. Ce matin, le livre dont nous allons étudier les deux premiers chapitres parle en effet de souffrance, mais c'est aussi et surtout un livre qui parle de Dieu et qui nous apprend à le connaître au travers de la souffrance. Vous connaissez peut-être C.S. Lewis, un auteur chrétien anglais assez connu qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il a écrit beaucoup de livres et parmi ses livres, il a écrit Le problème de la souffrance. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie et voici ce qu'il dit à propos de la souffrance. Je le cite, C.S. Lewis. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Peut-être que c'est votre expérience. Peut-être que vous avez senti que Dieu vous parlait avec son mégaphone dans les moments difficiles que vous avez traversés. Ce livre, c'est donc le livre de Job, qui est un livre difficile, comme il est mentionné au dos de vos bulletins. C'est un livre difficile pour trois raisons. Je ne vais pas m'éterniser sur ces trois raisons. On pourrait en parler à la fin du culte, si vous le désirez. Mais le livre de Job, c'est un livre difficile, pour trois raisons. Première raison, c'est que c'est un livre assez difficile à cerner. En fait, nous savons la période à laquelle Job a vécu, probablement la période des patriarches, c'est-à-dire la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous savez, au début du deuxième millénaire avant Jésus. Mais nous ne savons pas vraiment où Job a vécu. Le pays d'Outz, d'où Job est originaire, est inconnu au bataillon. Très difficile de savoir où c'est. Et puis ce que nous ne savons pas non plus, c'est quand le livre de Job a été rédigé. C'est pas facile, on n'en est pas très sûr. Certains pensent que le livre de Job a été écrit sous Moïse, peut-être. Mais rien ne nous permet de le déterminer avec précision. Première difficulté donc, c'est un livre difficile à cerner. Deuxième difficulté, c'est un livre difficile à traduire. Est-ce que vous savez que 95% du livre de Job, 95% est écrit sous forme poétique? Le reste du livre est écrit sous forme de prose. Et vous allez me dire, et alors, qu'est-ce que ça change que le livre de Job soit écrit sous forme poétique? Et alors, je vous répondrai que la poésie est un genre littéraire vraiment particulier. Vous ne lisez pas un poème comme vous lisez un article de journal dans 20 minutes ou dans le Lyon Plus le matin dans le métro. C'est pas vrai. La poésie touche nos émotions, elle touche nos cœurs. Son langage est parfois évasif, exalté, emporté. Le langage de Job est atteint, en tout cas parfois, atteint parfois les limites du sublime, selon un commentateur du livre de Job. Ce qui rend sa compréhension et par conséquent, vous comprenez sa traduction très difficile. Troisième et dernière raison pour laquelle le livre de Job est un livre difficile, c'est que c'est un livre tout simplement qui est difficile à lire. Est-ce que vous savez combien il y a de chapitres dans le livre de Job ? 42. 42 chapitres, c'est pas un petit livre, c'est un livre qui est long. C'est un livre qui est long et qui, de surcroît, pose une question difficile et qui traverse tout le livre. Et cette question, la voici. Écoutez bien. Pourquoi Dieu ? Pourquoi ? Mais pourquoi, s'il est juste, bon et tout-puissant, permet-il qu'un homme intègre et droit souffre alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dans la vie, il y a des souffrances qui s'expliquent, qui sont la conséquence logique, naturelle, d'une attitude plus ou moins responsable. Si vous avez mal au ventre après avoir mangé trop de Big Mac au McDo, par exemple, c'est normal, d'accord ? C'est une souffrance tout à fait normale, rationnelle, qui s'explique, d'accord ? Dans la vie, donc, il y a des souffrances qui s'expliquent. Mais il y a aussi des souffrances, plus sérieusement, des souffrances qui ne s'expliquent pas. Et c'est le cas des souffrances de Job qui ne comprend pas pourquoi elle souffre. Et qui pose à Dieu des questions trop profondes, trop sérieuses, trop graves pour être traitées à la légère en 5 minutes sur une carte postale. Si vous avez souffert dans votre vie, si vous êtes passé par des moments difficiles, vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions. Vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de remède miracle au deuil. Quand on perd un enfant, un parent, un frère, une sœur, il n'y a pas de remède miracle au deuil. Et à la douleur, c'est pas vrai. Pourquoi donc Dieu, s'il est juste, bon et tout-puissant, permet-il qu'un homme droit et intègre souffre le martyre, alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça? Pourquoi? Cette question, c'est peut-être celle de vos amis non-croyants. Qui se demande comment vous pouvez croire en un Dieu qui permet tant de souffrances dans le monde. Comment répondez-vous à cette question lorsqu'on vous la pose? Cette question, c'est peut-être la vôtre. Vous vous l'êtes déjà posée vous-même. Vous vous la posez peut-être ce matin. Vous serez peut-être amené un jour à vous la poser. Cette question, c'est en tout cas celle que Job pose tout au long de son livre et à laquelle nous allons essayer de répondre à la fin de ce message. Ne zappez pas. Ne savez pas, d'accord. Comme on l'a dit, nous ne savons pas très bien où Job a vécu, c'est vrai, mais ce que nous savons, c'est où Job a vécu. Je vous invite à lire les 5 premiers versets dans le livre de Job. qui est le premier livre de la littérature de la sagesse, chapitre 1, versets 1 à 5. Nous lirons le récit au fur et à mesure. Job, chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Utz, ou le pays d'Utz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun un tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché. Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que faisait toujours Job. Est-ce que vous avez remarqué dans ces 5 versets que Job est un homme intègre et droit, c'est clair comme de l'eau de roche. Job n'est pas un homme parfait, seul le Seigneur Jésus était un homme parfait. Job n'est pas un homme sans péché, mais c'est un homme absolument intègre et droit, qui se détourne du mal. Et pourquoi Job se détourne-t-il du mal? Est-ce que vous avez remarqué? En fait, la réponse est au verset 1, que je vous invite à relire. Cet homme, Job, était intègre et droit, il craignait Dieu. Pourquoi Job se détourne-t-il du mal? Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il est animé du plus profond respect à son égard. Parce qu'il est conscient de 2 choses fondamentales que j'ai tendance à trop souvent oublier. La première, c'est l'extrême gravité du péché. Le péché, c'est grave, on ne badine pas avec le péché. Et la deuxième, c'est l'absolue sainteté de Dieu. Dieu est saint, il est même 3 fois saint. Job est un homme extrêmement consensu. Il a 10 enfants, 7 fils et 3 filles qui organisent des festins. Et comme nous l'avons lu, une fois ces festins terminés, Job se lève de bon matin. En fait, se lever de bon matin, c'est une expression idiomatique en hébreu qui ne fait pas nécessairement référence au fait que Job se lève tous les matins à 4 heures, mais plutôt qui fait référence au caractère consciencieux de son activité. Et que fait Job ? Il prend toutes les précautions pour purifier chacun de ses enfants, c'est-à-dire pour qu'il soit en état de s'approcher de Dieu, pour qu'il soit libéré de toute culpabilité, écoutez bien, que pourrait entraîner un éventuel péché, c'est-à-dire un éventuel blasphème que ses enfants auraient peut-être pu commettre dans leur cœur. Verset 5, et Job en fait un holocauste, c'est-à-dire un rite de purification, caractérisé par le sacrifice d'un animal entièrement consumé par le feu. Tout ça pour que ses enfants vraiment soient en état de s'approcher de Dieu. Tout ça pour qu'ils soient pardonnés des péchés qu'ils auraient éventuellement commis dans leur cœur. Mais si Dieu est juste, bon et tout-puissant, si Dieu est juste, bon et tout-puissant, il n'est pas du tout étonnant de lire ce qui suit et de constater que la vie de Job porte la marque de la bénédiction divine. Job, premièrement, est un père comblé, on l'a lu. Il est père de 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et en fait, en Israël, avoir 7 fils, c'est le comble de la bénédiction. Job est un père comblé, c'est normal qu'il soit récompensé. Puisque c'est un homme intègre et droit, Dieu est juste, bon et tout-puissant, c'est tout à fait normal, non? Deuxième bénédiction, Job est un homme riche. À l'époque, en Israël, la richesse d'une personne était évaluée en fonction de son cheptel et du nombre de ses serviteurs. Et est-ce que vous vous rappelez combien Job a de moutons? 7000. Combien de chameaux? 3000. Combien de paires de bœufs? 500. Combien d'ânesses? 500. Sans parler du nombre de ses serviteurs. Mais encore une fois, c'est normal que Job soit béni dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il est intègre et droit. C'est normal. Dieu est bon, juste et tout-puissant. Il bénit Job. C'est normal, un Dieu digne de ce nom récompense l'intégrité et la droiture de ceux qui le craignent, en déversant sur eux une multitude de bénédictions, des bœufs, des ânes, des serviteurs, etc. C'est normal. Et de la même manière, inversement, Dieu étant un Dieu juste, bon et tout-puissant, un Dieu digne de ce nom, il châtie la malhonnêteté et l'hypocrisie de ceux qui n'ont aucun respect pour lui, de ceux qui ne le craignent pas. en déversant sur eux une pluie de malédiction. Encore une fois, c'est normal. Non ? Le problème, c'est que c'est une pluie de malédiction qui va s'abattre sur la vie de Job. À partir de verset 6, le verset qu'on va lire, c'est un peu comme au théâtre. Je ne sais pas là, à quand remonte la dernière fois que vous avez été au théâtre. Moi, ça fait pas mal de temps. Mais à partir du verset 6, je vous invite à venir au théâtre et à assister à un drame en 4 actes. 4 actes alternant entre ciel et terre. 4 actes dont les 3 premiers commencent par la même formule en hébreu. Il y eut un jour. Il y eut un jour. Je vous invite donc à lire les versets 6 à 12, la suite de l'histoire de Job, à partir du verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Premier acte, nous nous trouvons dans la salle du conseil du Seigneur. Versets 6 à 12, dans la salle du conseil du Seigneur. Bienvenue dans la chambre, non pas des lords à Londres, mais dans la chambre du Lord, dans la chambre du Seigneur, dans la chambre de l'Éternel. Bienvenue dans les coulisses du monde spirituel invisible. Une scène rare, très rare dans l'Ancien Testament. Ce conseil est présidé par Dieu en personne, autour duquel se rassemble sa cour, composée des fils de Dieu. Vous avez remarqué ce terme, fils de Dieu. Certaines versions parlent d'anges. En fait, il s'agit certainement de créatures spirituelles auxquelles Dieu a confié un certain pouvoir pour le servir et pour faire sa volonté sur la terre. Et parmi les membres de cette cour, il y a un intrus. Est-ce que vous l'avez remarqué, cet intrus ? Le Satan. En fait, Satan, c'est pas du tout un nom propre. Hein. C'est pas Satan, c'est pas un prénom. C'est un nom, tout ce qu'il y a de plus commun en hébreu. Le Satan, c'est l'accusateur, l'adversaire de Dieu et des hommes. Votre adversaire. Mon adversaire. Et là, ça pose une question. Que vient faire l'adversaire de Dieu ? Que vient faire le diable ? Que vient faire Satan parmi les fils de Dieu, pourquoi Dieu accepte-t-il en sa présence le père du mensonge, le Satan, le diable, pourquoi ? Il faut reconnaître que le texte ne répond pas à cette question. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Satan ne prend pas la parole sans avoir interrogé. C'est Dieu qui choisit le sujet de conversation et qui lui demande de rendre des comptes. Regardez le verset 7 et 8. C'est Dieu qui l'interroge, c'est Dieu qui choisit le sujet de conversation. D'où viens-tu ? Satan lui répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Mon serviteur, c'est un peu comme si Job avait reçu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, vous savez, c'est pas n'importe qui la reçoit. Vous êtes reçu à l'Élysée par le président de la République, l'État vous récompense en vertu de quelque chose que vous avez fait. En fait, là, Dieu est en train de décerner une sorte de légion d'honneur à Job, son serviteur, une distinction qui est réservée à peu de monde dans l'Ancien Testament, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse et aux serviteurs de l'Éternel en Ésaïe. C'est pas n'importe qui peut recevoir le titre de mon serviteur de la part de Dieu. Mais vous savez quoi ? Le diable n'est pas du tout impressionné. Tu parles, Job, ton serviteur. Fais-moi rire. Est-ce de manière désintéressée ou de manière intéressée que Job te craint ? Est-ce que c'est pour tes beaux yeux, Dieu ? que Job te craint. Est-ce que c'est par amour pour toi? Ou est-ce que c'est par amour pour lui qu'il te révère? Tu le protèges, lui et sa famille. Toute sa vie porte la marque de ta bénédiction. Il a je ne sais pas combien de chameaux, je ne sais pas combien de bœufs. Il a des serviteurs. Pas étonnant qu'il te révère. N'importe qui, mais absolument n'importe qui en ferait autant. Mais reprends ce que tu lui as donné. Reprends ça et tu verras. Il te maudira en face. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Parce que Dieu accepte de relever le défi que le diable lui a lancé. Il ne va pas frapper Job lui-même, contrairement à ce que Satan a demandé, mais il va livrer tout ce qui appartient à Job entre ses mains. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quel jeu dangereux est-il en train de jouer? Pourquoi accepte-t-il de relever le défi du diable? Il sait très bien à qui il a affaire. Pourquoi donne-t-il une permission aussi terrifiante au diable? Pourquoi? Et là, je me permets d'émettre une petite hypothèse. Et cette hypothèse, la voici. Derrière la perversion et la malveillance du diable, derrière cette malveillance et cette perversion, n'y aurait-il pas finalement une vraie question? Une vraie question. Écoutez bien, si ceux qui craignent Dieu sont toujours prospères, si ceux qui craignent Dieu sont toujours en bonne santé, leur vie de piété, leur attachement à Dieu, leur crainte de Dieu, ne serait-elle pas motivée par des mobiles suspects? Vous comprenez? Leur crainte de Dieu, finalement, ne serait-elle pas une démarche intéressée? On dirait aujourd'hui une démarche calculée. Pourquoi Job craint-il Dieu après tout? Pourquoi? Est-ce que c'est par amour pour Dieu ou est-ce que c'est par intérêt personnel? Ne serait-ce pas uniquement en échange de sa prospérité et de sa santé? Tout simplement parce que Dieu le bénit. Il n'y a pas de mal. Comprenez cette hypothèse, et ça serait peut-être pour ça en fait que Dieu accepterait de répondre au défi lancé par le diable. Sans transition, retour au pays de Job. Il y eut un jour, les versets 13 à 22, que je vous invite à lire. Versets 13 à 22. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères aînés, un messager arriva vers Job et lui dit « Les bœufs labouraient, les ânes broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « Des Chaldéens, répartis en trois bandes, sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère. Et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. C'est le deuxième acte. Vous avez remarqué, on est revenu au pays de Job, d'accord? À partir du verset 13. Job qui d'ailleurs, contrairement à vous, contrairement à nous, n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé dans la salle du conseil du Seigneur. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et il perd en une journée ce que la plupart des hommes perdent en une vie. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu des choses dans votre vie, mais Job perd en une journée ce que nous allons peut-être perdre en une vie. Ces bœufs, ces ânes et ces chameaux qui ont été volés, ces serviteurs qui ont été massacrés, ces brebis foudroyées et ces enfants, ces 10 enfants, ces 7 fils ses trois filles morts dans une tempête. Si vous êtes parents, mettez-vous à la place de Job. Si vous êtes parents, si vous avez des enfants, mettez-vous à sa place. Personnellement, je n'ai qu'une petite fille qui est âgée de 2 mois et demi et je n'ose pas imaginer, je n'ose pas songer à la douleur que pourrait provoquer sa seule perte. Imaginez ce qu'a pu provoquer dans le cœur de Job la perte de 10 enfants. En signe de deuil, il déchire son manteau, il se rase la tête, puis il fait preuve d'une attitude que j'ai eu du mal à qualifier. Cette attitude, je la qualifie d'exemplaire, on pourrait la qualifier de remarquable, on pourrait la qualifier de jobesque, tant elle est propre à Job. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de maudire Dieu, il le bénit. Bénir, ça veut dire dire du bien. Au lieu de maudire Dieu, contrairement à ce qu'avait prédit le diable, Job bénit Dieu, il dit de bien de Dieu. Et il confesse sa souveraineté absolue. Job est venu dans le monde nu, sans rien. Il en repartira nu, sans rien. En fait, il ne mérite rien. Tout ce qui lui appartient, c'est que du bonus. C'est Dieu qui, dans sa bonté, lui a donné. C'est lui qui donne et qui reprend. Qu'il soit loué. Quelle attitude exemplaire, n'est-ce pas? Remarquable. Le Satan a perdu son pari. Il avait tout faux sur toute la ligne. La piété, l'attachement de Job à Dieu n'est pas du tout une démarche intéressée. Submergé par le malheur, submergé par la douleur, Job a prouvé la sincérité, l'authenticité de sa foi et de son attachement à Dieu. Ce n'était pas du pipeau. Job est un vrai croyant de chez vrai croyant. Sans transition, retour dans les mondes, le monde spirituel, dans la salle du conseil du Seigneur. Je vous propose de lire les 7 premiers versets du chapitre 2, la suite de l'histoire de Job. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau. » Petite parenthèse, peau contre peau, c'est pas facile à traduire, c'est un peu l'équivalent de notre proverbe aujourd'hui, vous savez, donnant-donnant, ou échange de bons procédés, d'accord ? Peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Ce troisième acte, donc des versets 1 à 7, à la première partie du verset 7, fait clairement écho au premier. Vous avez remarqué les parallèles qui existent entre la première scène et celle-ci. Les fils de Dieu, les anges, les créatures spirituelles se présentent devant Dieu. Le Satan, le diable, il s'incruste. Dieu lui fait de nouveau remarquer l'intégrité et la droiture de son serviteur, d'accord, Job, une distinction spéciale, qui de surcroît persévère dans son intégrité et sa droiture. Mais comme dans le premier acte, le Satan n'est pas impressionné du tout. Tu parles, fais-moi rire. Job a peut-être perdu ce qu'il avait en sa possession, ok. Mais il n'a pas été touché dans sa personne et continue à te craindre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est en bonne santé, dit le diable. Mais fais-lui la peau, touche à son corps et tu verras Dieu, tu verras. Il te maudira en face. Et là Dieu dit, ça suffit, on arrête, Job a assez souffert comme ça, c'est en vain que tu essayes de le perdre, il persévère dans son intégrité, on arrête, stop. Mais contre toute attente, et de manière incompréhensible, et de manière complètement déconcertante, Dieu ne dit pas stop, Dieu dit on continue. Dieu accepte une nouvelle fois de relever le pari de relever le défi que le diable lui a lancé. Il ne va pas frapper Job lui-même, mais il va le livrer entre ses mains. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi? Pourquoi est-il en train de donner au diable une permission aussi terrifiante? À quel jeu dangereux est-il en train de jouer? Dernier acte de ce récit, de ce drame de la vie de Job, acte 4, au pays de Job, à partir de la deuxième partie du verset 7 jusqu'au verset 10. Donc la deuxième partie du verset 7, nous sommes de retour au pays de Job. Puis Satan frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le malheur ?» Ainsi, dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Après l'avoir torturé dans son cœur, le diable torture maintenant Job dans son corps, c'est terrible. De quel mal Job souffre-t-il exactement? C'est pas facile à dire, le texte nous parle d'un ulcère purulent. Certains pensent à une maladie de peau, certains pensent à la lèpre, certains pensent à la petite vérole, certaines personnes pensent à l'éléphantiasis, qui est selon mes recherches une maladie du système lymphatique. C'est difficile à dire, mais ce que nous savons, ce qui est sûr et certain, c'est que Job souffre le martyr. La situation semble tellement désespérée que sa femme, mettez-vous à sa place, qui a perdu ses 10 enfants, et qui ne supporte sans doute plus de voir son mari dans cet état, lui demande de maudire Dieu et d'en finir. Mais Job fait preuve d'une attitude jobesque, remarquable, exemplaire, extraterrestre, extraordinaire. Au lieu de maudire Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soumettre humblement à sa façon de gérer le monde, en acceptant de recevoir de lui le bonheur, comme le malheur, après tout, n'est-ce pas à lui, le Créateur, de décider des circonstances de la vie. Écoutez, ainsi se termine l'histoire de Job. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Elle se termine sur une note positive. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Tout est bien qui finit bien. On peut refermer le livre de Job, rentrer chez nous et revenir la semaine prochaine. Le problème, c'est que le livre de Job est un livre long, 42 chapitres. Et qu'il serait trop facile, il serait trop facile de s'arrêter là. Il serait trop facile de sauter les chapitres 3 à 42 pour lire l'épilogue du livre de Job. Et vous savez que le livre de Job est tout sauf un livre facile. Entre les chapitres 3 à 42, en fait, il y a un océan de questions, un océan de souffrance, d'agonie à traverser. Et la première application, et c'est par une série de 4 applications que j'aimerais terminer, la première application, c'est peut-être de lire le livre de Job. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Job dans son entier? Pas simplement les 2 premiers chapitres et le dernier chapitre, mais les 42 chapitres du livre de Job. J'ai fait le calcul, si vous lisez 3 chapitres par jour, vous avez fini le livre de Job la semaine prochaine. Si vous lisez 6 chapitres par jour, vous avez fini le livre de Job en une semaine. En fait, c'est l'inverse. Si vous lisez 3 chapitres par jour, vous avez fini le livre de Job en 2 semaines. Pas mal. Si vous lisez le livre en 6 chapitres, vous l'avez fini en une semaine, encore plus court. Première application, lire le livre de Job. Deuxième application, il est très difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, de passer à côté de l'attitude exemplaire de Job. Comment auriez-vous réagi à sa place? Comment réagissez-vous face à la souffrance? Comment réagirons-nous si un jour nous sommes confrontés à la souffrance? Est-ce que vous avez peur d'abandonner votre foi en Dieu si Dieu permet que votre foi soit éprouvée? Est-ce que vous avez peur d'abandonner votre foi en lui? Comment savoir si vous allez réagir? Comment savoir si je vais réagir comme Job a réagi peut-être en nous posant ces deux questions dès maintenant, dans le secret de nos cœurs. Je vous invite vraiment à répondre à cette question, dans le secret de vos cœurs. Première question, quelle que soit notre situation, que vous passiez par des moments difficiles ou pas, est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous avez conscience de la gravité du péché, avec laquelle on ne badine pas, et de la sainteté de Dieu? Est-ce que nous sommes animés, est-ce que je suis animé du plus grand respect pour Dieu, et du vif désir de vivre attaché à lui? D'accord? C'est la première question. Est-ce que nous craignons Dieu? La deuxième question à nous poser, si nous craignons Dieu, pourquoi est-ce que nous le craignons? Pourquoi? Quel est le fondement, la base, la raison d'être de notre crainte de Dieu? Pourquoi est-ce que nous le craignons? Pourquoi est-ce que nous désirons vivre dans l'attachement à lui après tout? Est-ce que c'est pour rien, de manière complètement désintéressée, ou pour quelque chose? De manière intéressée, en échange de notre succès aux examens, de notre prospérité matérielle, peut-être de notre santé? Est-ce que c'est pour ce que Dieu nous donne, ou est-ce que c'est pour ce que Dieu est? De quoi dépend notre crainte de Dieu après tout? De notre attachement à lui? Des circonstances de la vie qui changent et qui n'arrêtent pas de changer tous les jours, ou de Dieu qui ne change pas? C'est la deuxième application. La foi qui résiste à l'épreuve, la foi qui résiste à l'épreuve de la souffrance, c'est la foi qui sait. C'est la foi qui sait que Dieu est, reste et demeure juste, bon et tout-puissant. En toutes circonstances, que tout roule ou que tout s'écroule dans nos vies. Dernière application, la souveraineté absolue du Seigneur. Il est très difficile de passer à côté de la souveraineté absolue de Dieu dans ce passage. C'est peut-être le passage de la Bible qui révèle le plus clairement la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas de rival. Au ciel, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a pas deux forces égales et indépendantes, le bien et le mal qui s'affrontent. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, comme quand les méchantes armées de Mordor affrontent les gens bien de la terre du milieu, et puis finalement on ne sait pas très bien qui va gagner parce que vraiment ce sont deux forces égales quelque part qui s'affrontent. Là, pas du tout, Dieu n'a pas de rival au ciel. Il n'y a qu'un seul chef, il y a Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers qui règne souverainement sur toutes les créatures. Le diable n'est que le diable de Dieu. C'est Luther qui disait ça. C'est une créature qui lui est entièrement soumise, qui doit lui rendre des comptes, qui ne prend pas la parole sans avoir interrogé, dont les pouvoirs sont restreints, limités, et qui ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Alors que craignons-nous le plus dans la vie? Qu'est-ce que vous craignez le plus dans la vie? Est-ce que c'est Dieu, le maître des circonstances, ou est-ce que c'est les circonstances, aussi effroyables soient-elles? Est-ce que c'est Dieu, celui qui permet parfois des permission terrifiante, c'est vrai. Mais la question demeure, pourquoi Dieu permet-il qu'un homme intègre et droit souffre alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça? Chose promise, j'aimerais terminer en donnant quelques éléments de réponse à cette question qui a fait réfléchir beaucoup de monde. Certains théologiens, en fait, ont pensé avoir résolu ce problème en comparant Dieu à Garry Kasparov. Garry Kasparov, tout le monde voit qui c'est, hein, un joueur d'échecs, un maître qui a sévi, dans le bon sens du terme, hein, entre 1985 et 2000, c'était un joueur d'échecs russe. Garry Kasparov, et selon cette solution, en fait, Dieu n'est pas tout puissant, parce qu'il est un peu comme un joueur d'échecs, mais pas assez fort pour anticiper tous les coups de l'adversaire, et pour gagner à coup sûr. En fait, selon cette solution, Dieu n'est pas tout puissant. Il fait de son mieux pour éradiquer le mal, sur la terre, mais il n'est pas assez fort pour empêcher que certaines personnes souffrent injustement. Le problème, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu dit le contraire. Alors comment explique Dieu, s'il est juste, bon et tout-puissant, permettre qu'un homme intègre et droit souffre alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça? Pourquoi permet-il que vous ayez souffert dans votre vie alors que vous n'ayez peut-être rien fait pour mériter ça? Il y a quatre éléments de réponse qui seraient peut-être trop longs de développer maintenant. Je vous invite à en parler à la fin du culte. Je les évoque rapidement. La première, c'est la réponse de Dieu dans le livre de Job. Lisez le livre de Job pour découvrir la réponse que Dieu donne à Job. La deuxième, c'est l'échec de la raison. À mon avis, il est difficile de trouver une solution rationnelle au problème du mal. Parce que si nous trouvons une solution rationnelle au problème du mal, nous en faisons quelque chose de normal. Et la dernière, c'est la réponse de la croix. En fait, Job, le juste souffrant, n'est qu'une préfiguration, une image de celui qui est plus juste que lui, a souffert plus que lui, pour nous donner plus que n'importe qui. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus, qui nous offre le pardon de nos péchés, la vie éternelle, si nous nous repentons et si nous croyons en lui. C'est la première chose à faire. La première chose à faire. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'exemple de Job qui te craint, non pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es, le Dieu juste, bon et tout-puissant qui ne change pas. Aide-nous, s'il te plaît, à réagir comme lui, d'une manière qui te glorifie, si nous sommes un jour confrontés à la souffrance. Merci aussi pour ta souveraineté absolue qui constitue un véritable réconfort. Tu es le Dieu qui contrôle et maîtrise toutes choses, que rien ne surprend et qui donne parfois, il est vrai, des permissions terrifiantes. Aide-nous à te craindre, toi, le maître des circonstances, plus que les circonstances elles-mêmes, aussi redoutables soient-elles. Merci enfin pour ton Fils, le Seigneur Jésus, qui n'est pas venu pour donner une réponse théorique au problème du mal, mais pour se donner lui-même, pour vaincre le mal et pour nous en libérer. Aide-nous à fixer nos yeux sur lui, à persévérer dans notre confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci beaucoup.